Sans transition.
Bonjour Laure.
Bonjour Thibault.
Vous entendez l'hymne haïtien, adopté en 1904, 100 ans après l'indépendance du pays. Nous avons voulu revenir sur le séisme du 12 janvier dernier. Nul besoin de faire un rappel de la situation. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'aborder le sujet sous un angle géographique pour faire un survol au sens propre de l'espace ravagé.
Nous avons interrogé Jean-Marie Théoda, maître de conférences en géographie à la Sorbonne, spécialiste d'Haïti et des questions de développement, et fondateur de la revue Écogéo que vous pouvez consulter en ligne sur le site ecogeo.revueaupluriel.org. Et tout de suite, l'interview.
Sans transition.
Beaucoup de journaux parlent de fatalité. Est-ce que la fatalité est recevable pour un géographe spécialiste des questions de développement comme vous l'êtes?
Je pense que pour un géographe, pour un historien ou pour un géologue, le terme de fatalité n'a pas du tout sa place, si vous voulez, dans ce genre de débat, parce que nous avons les moyens scientifiques, rationnels, d'expliquer ce qui s'est passé. Et nous savons surtout que on aurait pu, en adoptant un certain nombre de mesures pratiques, mesures d'ordre urbanistique, éviter l'ampleur de la catastrophe. Donc, il n'y a pas de fatalité, parce que la fatalité voudrait dire que les hommes n'y sont pour rien. Mais il y a un problème d'incurie, d'imprévision, un manque de sens de la responsabilité publique qui explique l'ampleur de la catastrophe.
Quel type de mesures urbanistiques auraient été nécessaires?
Il y a tout simplement qu'un très grand nombre de ces bidonvilles qui ont été directement touchés par le désastre sont établis sur des zones qui normalement ne sont pas constructibles. Soit que les pentes sont trop fortes, soit que ce sont des espaces qui étaient jusque-là protégés, par exemple tout le versant sud du Morne, l'hôpital qui domine l'agglomération de Port-au-Prince et qui était jusqu'à une vingtaine d'années encore couvert d'une forêt assez épaisse, hein, dont on voit encore ici quelques vestiges. Il faut savoir que tout cela aujourd'hui n'existe plus, a été donc envahi par des quartiers non planifiés qui ont proliféré sur des pentes parfois vertigineuses. Et puis surtout, pour construire, il n'est pas besoin d'avoir un permis municipal. Donc pas besoin de satisfaire un certain nombre de normes architecturales, ce qui fait que donc l'incurie humaine, elle est d'abord en première ligne pour expliquer l'ampleur de la catastrophe.
Et si on voulait faire une cartographie donc des espaces les plus touchés, quelle serait la répartition des dommages?
Alors, on peut distinguer en gros, si vous voulez, trois zones. Il y a une zone longitudinale qui longe en fait la faille transformante, qui va en gros de Turgeot à l'est jusqu'à Léogane et Gressier à l'est, donc bien au-delà de l'agglomération de Port-au-Prince proprement dite. Donc là, nous sommes le long de la faille et l'épicentre se trouve à une dizaine de kilomètres au nord de cette ligne. Et c'est ici, le long de cette ligne est-ouest, que nous avons les dégâts les plus importants. Puis vous avez une deuxième zone qui est légèrement au nord, qui correspond en fait au centre historique de Port-au-Prince, donc autour du quartier de la cathédrale, du palais national, de la rue du centre et du centre des affaires, qui a été très vivement touché également. Donc ça, c'est le cœur historique qui est le secteur le plus ancien et le plus bâti. Et enfin, vous avez la périphérie tout au nord, encore, c'est-à-dire là, vers la plaine du cul-de-sac, vers la zone de l'aéroport, tout son ouverture, et vers l'est en direction du lac Azuay, une zone qui a été également touchée par le séisme, mais l'onde de choc est ici atténuée par la distance. Donc il y a des dégâts matériels, mais il y a relativement peu de pertes en vie humaine.
Vous parliez donc de l'incurie humaine. Dans une approche un peu plus historique, quelles sont les raisons qui expliquent la faiblesse de l'État haïtien?
Alors, la faiblesse de l'État haïtien, vue à l'échelle de l'agglomération de Port-au-Prince, c'est d'abord l'incapacité du pouvoir central de canaliser le flot de migrants intérieurs. Hein. On a un exode rural qui, sur les 20 ou 30 dernières années, a littéralement, on va dire, épongé le reste du pays pour concentrer toutes les forces vives dans la région métropolitaine. Il aurait fallu accompagner ce processus d'une politique de l'habitat, d'une politique de logements sociaux notamment. Cela n'a pas été fait. Donc ça, c'est une première forme de démission à ce besoin, à cette attente donc sociale. Le gouvernement a eu la politique de l'autruche en laissant faire. Donc laissant les gens s'installer n'importe où, à moindre frais, ce qui fait l'économie d'une intervention publique pour l'État, mais ce qui à l'opposé, renvoie un peu plus tard la nécessaire résolution d'un problème qui relève, on va dire, d'un droit social et d'un service de base, et n'ayant pas fait face à cette injonction, donc de loger les plus pauvres qui arrivent en quantité considérable, l'État a laissé faire. Donc, cette absence de responsabilité publique vient donc à la rencontre d'une sorte d'initiative privée, mais tellement massive et tellement émiettée dans l'espace que chacun a construit avec les moyens du bord, comme il l'entend, de sorte qu'il n'y a aucune harmonisation, aucun respect des normes. Donc la démission de l'État central se lit, pour ainsi dire, dans le paysage urbain, et donc l'absence d'État, la défaillance des techniques d'encadrement ne date pas d'hier, mais c'est un processus qui s'inscrit sur au moins une génération.
Et justement, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer la faiblesse de cet État ? Si vous pouvez faire une approche un peu plus historique.
Alors, la faiblesse de l'État haïtien, je pense que cela a à voir avec la façon même dont le pays a été construit, a été conçu. Au moment de son indépendance, donc en 1804, il y a plus de 200 ans, la nation haïtienne est dans une sorte de dialectique entre l'État et la société. Un État tout neuf, un État né des décombres donc de l'administration coloniale, mais qui en a hérité les oripeaux, c'est-à-dire la fonction répressive, la fonction de gardien de la survie des grandes plantations, c'est-à-dire que l'État haïtien apparaît sur la scène internationale comme le digne héritier finalement de l'administration coloniale, avec ce besoin de maintenir les travailleurs anciennement esclaves sur les anciennes plantations pour continuer à produire du sucre, du café et maintenir donc le niveau des exportations. Donc le souci de l'État ne diffère pas tellement de celui de l'administration coloniale, qui est de maintenir la machine de production en état de marche. Tandis qu'à l'inverse, la société haïtienne, cette société de néo-paysans, comme on dit, c'est-à-dire d'anciens esclaves devenus libres et qui travaillent bien entendu la terre, cette société, elle, aspire à tout autre chose. C'est une société que, vue de France, on pourrait comprendre à travers la perspective de ce qu'on appelle la sans-culotterie dans l'histoire de la Révolution, c'est-à-dire un idéal de petits paysans égalitaires ou d'artisans qui veulent maintenir un niveau de développement à peu près égal pour tout le monde et qui ne veulent surtout pas qu'il y ait ce fossé extraordinaire qui existait entre les maîtres et les esclaves. Donc c'est une société égalitaire qui se construit contre l'État dans ses prétentions à réactiver les anciennes plantations. Donc historiquement, on peut dire que faute d'un consensus entre l'État, c'est-à-dire en fait les élites qui tiennent les rouages de l'État, et d'autre part la société, c'est-à-dire la paysannerie, qui est la catégorie la plus importante, donc de ce dissensus entre les deux éléments constitutifs de l'État et de la société, naît ce divorce qui conduit à cette défaillance structurelle de l'État en Haïti.
Et est-ce qu'on pourrait justement revenir sur les conséquences actuelles donc des anciens liens qui unissent Haïti à la France ?
Alors, les liens entre Haïti et la France ont été institutionnellement rompus par l'indépendance du 1er janvier 1804, ce qui ne veut pas dire que tout lien a été définitivement interrompu. Au contraire, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan culturel, il y a toujours eu, sur ces 200 dernières années, une relation souterraine, oblique, indirecte entre Haïti et la France. Sur le plan intellectuel et culturel, c'est ici que l'élite haïtienne a continué à se former pendant tout le 19e et même, on peut dire, jusqu'à la première moitié du 20e siècle, avant que les États-Unis et que le Canada ne prennent le relais comme pays d'accueil des migrants. Sur le plan financier, jusqu'à la fin du 19e siècle, ce sont les milieux financiers français qui dominent véritablement la place financière portoprincienne, notamment à travers l'endettement d'Haïti pour verser à la France l'indemnité de 150 millions de francs or qui a été décidée au moment de la signature du décret de Charles X qui reconnaît l'indépendance d'Haïti. C'est-à-dire en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par décret, donc le gouvernement haïtien s'engage à verser 150 millions de francs or pour dédommager les anciens propriétaires d'esclaves. Et comme Haïti n'avait pas un trésor de guerre suffisant pour payer cet argent rubis sur ongle, Haïti a contracté une dette auprès d'un consortium de banques françaises parrainé par l'Union de banques parisiennes, et jusque dans les années 80-90, on peut dire que par endettement interposé, l'économie haïtienne dépend totalement de la France. Il faut attendre les années 1910-1915, c'est-à-dire en fait la veille de l'occupation américaine, pour voir un passage de relais, une passation, on va dire, de témoins entre la France et les États-Unis, et au début du XXe siècle, ce sont les États-Unis qui prennent le relais. Maintenant, à la longue, on peut dire que ce que nous observons, c'est une sorte d'éloignement, finalement, entre la France et Haïti. Haïti ne fait plus partie de ce qu'on appelle les pays du champ. Ce précaré de fait dont la France dispose, si vous voulez, dans ses anciennes colonies. Et la preuve en est qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes éclairées ne savent pas que Haïti a été une colonie française, ou alors ça paraît totalement incongru. Et Régis Depré, qui a été, on va dire, le coordonnateur d'un livre blanc qui a été publié en 2004, justement sur Haïti et la France, a conclu en disant que Haïti fait partie de l'histoire de France, mais pas de sa mémoire. En tant que la mémoire est un construit des représentations officielles qui vont dans le sens, on va dire, d'une sorte de pédagogie de ce passé. Haïti ne fait pas partie de la mémoire de la France, et pourtant elle fait partie de son histoire. Et ce que nous découvrons aujourd'hui à travers cette catastrophe, c'est la réactivation automatique de liens anciens, de liens qui étaient jusque-là cachés, parce que tout simplement, c'est dans la langue française que les Haïtiens expriment leur désarroi. Et comment ne pas l'entendre, nous particulièrement, quand cela se fait dans une langue qui nous est familière? Donc, les liens entre Haïti et la France ne sont pas des liens matériels, ce ne sont pas des liens, on va dire, aussi patents, aussi visibles que ceux que nous pouvons avoir avec les États-Unis, parce que là-bas, il y a communauté haïtienne de plus d'1,5 million de personnes. Il y a des vols quotidiens, au moins une dizaine, entre Port-au-Prince et les principales capitales américaines, alors qu'il n'existe toujours pas un vol direct entre la France et Port-au-Prince. C'est vous dire donc que des liens tangibles, très peu, mais fondamentalement, nous avons des liens très anciens qui aujourd'hui sont réactivés par l'urgence de la catastrophe.
Et vous parliez de la présence américaine. Sur le plan diplomatique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces craintes?
Vous savez, on dit, en Haïti, nous avons la manie des proverbes. J'en vois deux qui pourraient ici nous servir d'illustration. Chat échaudé, crâne froide. C'est-à-dire, nous avons été occupés au moins une fois de façon formelle par les États-Unis, de 1915 à 1934, et c'est un épisode plutôt douloureux de notre mémoire collective. À la veille de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont dans une posture de... c'est un peu la politique du Bernard l'Ermite dans la Caraïbe, c'est-à-dire les puissances européennes empêtrées dans un conflit dont on voyait déjà venir... c'est-à-dire les signes avant-coureurs. Les États-Unis vont avoir tendance à occuper systématiquement les places laissées vacantes par les Européens, et ceci a commencé dès le XIXe siècle, avec 1898, la guerre d'indépendance de Cuba, qui est l'occasion pour les États-Unis de prendre pied non seulement à Cuba, mais également à Porto Rico, et plus loin, c'est-à-dire il y a un même mouvement, finalement, on va dire, de prise de position stratégique qui conduit les États-Unis à occuper toute une chaîne, on va dire, de positions qui vont de Cuba à Panama, en passant par Saint-Domingue et Port-au-Prince. Donc, il y a une politique hégémonique, systématique, de prise de position dans ce que certains historiens notamment Juan Bosch, l'historien dominicain, appelé la nouvelle frontière impériale. Hein, la Caraïbe est un enjeu pour, dans cette course, on va dire, à l'hégémonie. Et les États-Unis sont bien placés par rapport à la Floride, notamment, pour jouer un rôle important dans cette région. Donc, que les États-Unis interviennent de nouveau aujourd'hui dans un quelconque pays de la Caraïbe, ça ne pourra que nous rappeler de mauvais souvenirs. On pense à l'invasion de la baie des Cochons, on pense bien entendu à l'invasion de la petite île de Grenade, pour reprendre des exemples récents. Et donc aujourd'hui, on se demande si les États-Unis ne sont pas en train de nous refaire, si vous voulez, le scénario de l'intervention massive sur un pays qui n'en peut mais dans le même temps. On dit qu'on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire que les États-Unis sont tellement habitués à intervenir dans le monde, et pas seulement dans la Caraïbe, de façon musclée et unilatérale, que c'est une occasion de plus de souligner une certaine arrogance dans le comportement des Américains et dans leur politique étrangère. Mais néanmoins, je pense qu'il faut être très prudent dans notre approche et considérer que si la finalité de l'intervention américaine, c'était de prendre place en Haïti et d'y installer une base ou des hommes de façon durable, ils n'avaient pas besoin de cette catastrophe pour le faire. Ils avaient déjà toutes les conditions avant cela. Je ne pense pas que la finalité première soit de prendre pied durablement en Haïti. J'ai même plutôt le consentiment du contraire. Aucun pays, aucun, ni les États-Unis, ni la France, n'a envie de se mettre à dos un pays tel que Haïti. Haïti, c'est un boulet, au sens économique, au sens social, et puis au sens historique. Parce qu'on sait que tout pays qui viendra occuper Haïti, en tant que pays symbole de la liberté, pays symbole de la lutte pour l'indépendance, pays symbole de la déclaration universelle, finalement, des droits de l'homme, toute occupation d'Haïti apparaîtrait comme un abus par rapport à un pays qui n'a pas les moyens de se défendre seul. Donc, ce serait une victoire sans gloire. Personne n'a à tirer, je dirais, véritablement avantage ou prestige d'une occupation d'un pays qui est déjà à genoux. Et puis, d'un point de vue matériel, économique, je ne vois pas le bénéfice qu'il y a à tirer de l'occupation d'Haïti. Nous n'avons ni or, ni pétrole, ni étain, ni métaux rares, ni eau, ni tous ces biens qui, finalement, font, si vous voulez, l'intérêt d'une occupation de cette ampleur. Et je pense qu'il faudrait avoir donné aux États-Unis le bénéfice du doute et se dire que si Obama était sincère dans son idée que sa présidence allait être l'occasion d'un nouveau départ de la puissance américaine, d'un nouveau visage et d'une nouvelle façon aussi de faire de la politique. Et si le président Obama a le sens de l'histoire et qu'il interprète correctement cette émotion planétaire suscitée par son élection, je pense que l'intervention en Haïti doit être vue comme l'occasion justement d'illustrer cette nouvelle forme de gouvernance que le monde semble attendre. C'est-à-dire le sentiment que nous avons un sort commun, partagé, en particulier en cas de catastrophe, et nous savons que le genre de situation telle que nous connaissons aujourd'hui en Haïti est appelé à se répéter de plus en plus dans les petits pays, les petites îles, compte tenu de l'urgence de la dégradation de la situation environnementale, le réchauffement planétaire, le relèvement du niveau des mers, la destruction des forêts, la prolifération de certaines agglomérations des pays du Sud. Tout cela crée des conditions sanitaires, des conditions de vulnérabilité sociale que seules ces sociétés des pays émergents ne pourront pas affronter. Ils ne pourront pas relever seuls ce genre de défi. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas de donner un blanc-seing aux États-Unis et de leur dire « faites pour le mieux et nous ne pouvons que tomber d'accord avec vous ». Non. Il faut les accompagner sur le terrain, les prendre au mot et dire que vous êtes venus pour aider, vous êtes les bienvenus, nous apprécions cette générosité, mais cependant, les décisions doivent être prises de façon concertée, ce qui est le sens même de la notion de gouvernance.
Vous avez parlé des ressources dont disposait Haïti. Si on suit les théories de l'approche développementaliste, sur quels éléments Haïti pourrait se fonder pour se reconstruire, justement, si vous mettez en lumière le fait qu'il dispose de peu, que le pays est ravagé, que l'agriculture est peu performante?
Le pays est dévasté, bien sûr. Son tissu économique est laminé et les infrastructures et les éléments qui auraient pu permettre un redémarrage de la production sont aujourd'hui puissamment, on va dire, éprouvés. Près de 80% quand même du PIB haïtien est concentré dans la région métropolitaine qui a été durement touché par le séisme. C'est-à-dire donc que le pays était déjà pauvre avant le séisme. Aujourd'hui, c'est le comble du dénuement. Et maintenant, quelles sont les ressources? Nous n'avons ni ressources minières significatives, ni ressources halieutiques en quantité suffisante, alors que nous sommes une île. On aurait pu imaginer les Haïtiens vivant des produits de la mer. C'est la mer des Antilles, comme l'océan Atlantique, au large donc de notre continent. Ce sont des eaux très pauvres, pour des raisons qui relèvent de la géographie physique. Pas de ressources minières, pas de ressources halieutiques. Nous avons pratiquement systématiquement déboisé le pays. Il reste à peine 1% de couverture végétale sur l'ensemble de la superficie. Que reste-t-il? Eh bien, la matière première, la plus importante des Haïtiens, c'est la matière grise, c'est-à-dire leur savoir-faire, leur culture, leur acharnement au travail, leur imagination. Et il faut savoir que Haïti joue dans la Caraïbe le rôle de véritable plateforme, je dirais, artisano-culturelle, c'est-à-dire aussi bien pour ce qui est de la production artisanale que de la production culturelle, qu'il s'agisse de musique, qu'il s'agisse de peinture, qu'il s'agisse de littérature, bien entendu. On ne se nourrit pas de culture, ce n'est pas avec ça que l'on va développer véritablement le pays, mais disons qu'on trouve à travers la culture les conditions de la résilience haïtienne. C'est avec ça, sans doute, que ce pays a réussi à traverser les vicissitudes de l'histoire et faire fond sur cette richesse culturelle, faire fond sur l'existence en Haïti d'un extraordinaire vivier de savoir-faire, ça me semble une mesure de bon sens pour permettre à ce pays de se redévelopper.
Un chercheur de Berkeley disait que sans doute la base d'un redéveloppement serait le renouveau de l'agriculture vivrière.
Qu'il faille renforcer les capacités productives de l'agriculture paysanne, c'est évident. Mais qu'il faille assigner à cette même agriculture la fonction exclusive d'agriculture vivrière ou d'agriculture nourricière, ça me paraît une aberration. Parce que ça voudrait dire que les Haïtiens produiraient du riz, des éléments qui pourraient être importés à meilleurs frais des pays étrangers. Alors par quel moyen, par quel artifice va-t-on maintenir des exceptions douanières pour permettre que Haïti se protège, enfin protège la production nationale par rapport à une importation? C'est-à-dire que ça voudrait dire sortir Haïti de la mondialisation, ça voudrait dire mettre ce pays en apesanteur par rapport aux autres territoires. Donc on ne peut pas parler de développement, ou alors ce sera un développement totalement artificiel. C'est comme considérer que l'avenir de l'agriculture française se trouve sur le plateau du Larzac. En allant élever quelques moutons et en faisant pousser un peu de chanvre indien, on va relancer l'agriculture française. C'est totalement utopique. C'est politiquement très correct de dire que nous allons relancer l'agriculture vivrière et que nous allons en fait intervenir au profit des plus pauvres. L'intention est bonne, mais la voie qui est choisie n'est peut-être pas la plus judicieuse, parce que ça ne fera pas de l'agriculture haïtienne la plus compétitive, et d'autant que vous avez d'autres pays tels que la République dominicaine et bientôt Cuba qui vont, si vous voulez, prétendre à leur part de marché également. Et je pense qu'il faut considérer Haïti dans son époque, avec les outils conceptuels de notre époque, et se dire que ce qu'il faut, c'est utiliser l'extraordinaire potentiel intellectuel et scientifique des Haïtiens et les lancer dans les nouvelles technologies de l'information, de la communication, comme ça se fait partout ailleurs.
Donc, la dette perçue pour l'aide reçue monte à 1,3 milliard de dollars. Est-ce que dans le contexte que vous évoquiez, un remboursement est envisageable?
Le plus généreux serait d'annuler la dette d'Haïti. C'est un courant qui a ses partisans et qui suit son chemin. Je suis sensible à l'offre et je pense que nous serions mal inspirés de refuser si jamais c'est cela qui nous était proposé. Mais dans le même temps, moi en tant qu'Haïtien, je ne militerai pas pour cette solution. Je demanderai plutôt un moratoire. Un moratoire avec la possibilité pour le pays de reprendre confiance en soi. Parce que passer l'éponge, effacer définitivement la dette, c'est effacer aussi les responsabilités publiques qui ont été prises. Et surtout, on sait aussi qu'un pays dont on annule définitivement la dette devient un pays suspect par rapport à tous les créanciers qui pourraient être tentés de revenir s'y installer ou de faire des investissements directs. Donc là encore, c'est une solution difficile à assumer. Hein, dire que il faudrait demander un moratoire le plus long possible, mais maintenir l'idée que ce pays doit être solvable, que ce pays doit se donner lui-même les moyens de s'assumer seul. Parce que sinon, on maintient les Haïtiens dans un sentiment, on va dire, de pays immature, de pays sinistré, de pays assisté, et sur le long terme, c'est pas un très bon signal donné aux investisseurs et à ceux qui ont véritablement envie de travailler et de faire des affaires dans ce territoire.
À l'heure actuelle, donc, le chaos spatial semble accroître le chaos social. Donc, vous qui avez travaillé sur la violence et l'insécurité, est-ce que ces phénomènes ne sont pas amplifiés par le séisme ?
C'est l'un des paradoxes de cette situation. Moi, je trouve à l'inverse que le pays, la société s'est plutôt bien comportée par rapport au chaos annoncé et par rapport surtout à la débandade que l'on serait en droit d'attendre. Il faut se rappeler que pour une population de 9 millions d'habitants, nous avons à peine 9000 policiers. Essayez d'imaginer la même proportion à Paris. La région parisienne compte peu ou prou 10 millions d'habitants. Mais combien y a-t-il de policiers en région parisienne ? Et ramenez cela au nombre de personnes tuées, ramenez ça aux chiffres de la délinquance et de la violence, vous verrez que Haïti est un pays relativement calme. Avec si peu de policiers par tête d'habitants, nous sommes en droit d'attendre une situation beaucoup plus explosive. Je trouve par conséquent que les Haïtiens dans la douleur, les Haïtiens dans le séisme ont fait montre de liens anciens, de liens profonds qui sont restés sur place. Au-delà des scènes isolées de pillage, mais bon, moi j'aime pas trop le mot pillage, ce sont des gens qui ont tout simplement faim et qui dans l'urgence cherchent, on va dire, à se nourrir soi-même et à nourrir leurs proches. Pour une ou deux scènes isolées, bien entendu, de dérapage, ce qui frappe la plupart des observateurs, c'est l'extraordinaire discipline. Et dans la plupart des cas, c'est la population elle-même qui s'organise pour faire des rondes de sécurité, pour évacuer les déchets, pour assurer la bonne distribution de l'eau et des aliments. Enfin, moi, personnellement, je suis étonné que la situation ne soit pas pire. Dans la catastrophe, nous découvrons ce qui reste finalement de liens sociaux qui n'ont pas été rompus par ces 20 ou 25 dernières années de chaos, effectivement, de désorganisation politique et sociale.
Retrouvez tout de suite la deuxième partie de l'interview.